Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure du podcast des maternelles, un podcast France Télévisions bien sûr. Le podcast des maternelles et aujourd'hui on parle des accouchements inopinés. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez entendre le témoignage de Camille, maman d'une petite Ava qui a 9 mois aujourd'hui. Camille qui va nous raconter qu'elle a accouché avant d'arriver à la maternité. Donc on va entendre Camille, et puis après nous serons avec une sage-femme, Mathilde Gillet, qui nous donnera, qui vous donnera les bons conseils, les bonnes choses à savoir si ça devait vous arriver. C'est parti!
Alors, vous imaginez, là, vous approchez du terme de votre grossesse, parce que je sais que vous êtes très nombreuses à nous regarder enceintes comme ça. Tout est prévu, à la maternité près de chez vous, etc. Vous vous dites, oh là là, quand est-ce que ça va venir et tout. Et puis un soir, voilà, 10 jours avant le jour J, vous perdez les os dans votre salon. Alors, a priori, en plus, si on perd les os, il n'y a pas forcément d'urgence, hein, faut aller à la maternité, mais ça ne veut pas dire qu'on va accoucher dans la seconde. Bah, pour Camille, ça ne s'est pas passé comme ça. Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors vous avez 30 ans, vous êtes la maman d'Ava qui a 9 mois et vous habitez à Haussonville, à côté de Nancy. Et bah, donc on l'a compris, pour vous l'accouchement, ça ne s'est pas du tout passé comme vous aviez prévu. Bon, bah, pardon, mais on adore. Et alors Frédéric, votre amoureux qui a dû endosser en 2 secondes le rôle de sage-femme. Vous allez nous raconter ça, parce qu'il a vraiment assuré. Alors, c'est vrai que quand on attend un premier bébé, on apprend un petit peu, on se dit comment ça va se passer, cet accouchement. Comment vous, vous l'imaginez?
Comme dit, tout le monde se pose beaucoup, beaucoup de questions. Et moi, je me suis aussi beaucoup référée à toutes les femmes, de ce qu'elles racontent de leur vécu. Et moi, premier accouchement, ce sera au moins 24 heures de contraction, ce sera extrêmement douloureux, je sentirai forcément les douleurs, je me poserai vraiment pas de questions. Et au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
Et vous vouliez accoucher sans péridurale, idéalement?
Voilà, idéalement, j'avais fait une petite préparation en disant que je préférais dans la salle de naissance... Et le plus naturel possible.
Accouchement avec... physio, comme on dit, voilà. Et vous aviez pris des cours de préparation à l'accouchement avec votre mari?
Je les ai tous faits. Mon conjoint, je crois qu'il n'y en a peut-être qu'une seule séance qui n'a pas pu m'accompagner, mais il était très impliqué, il m'a toujours suivie. Et ma sage-femme, elle nous avait fait toute une liste de thèmes qu'on pouvait choisir. Et c'est vrai qu'on ne se dit pas qu'on va faire son propre accouchement, donc c'est pas...
Oui, couper le cordon, par exemple, ce n'est pas un thème sur lequel on s'arrête plus que ça, quoi.
Non.
Alors, on est en avril 2021, on est à 10 jours de l'accouchement. Quels sont les signaux, là? La journée démarre comment?
Alors, tout à fait normalement. Moi, j'avais fait mes courses, en plus le gros caddie, genre, bon, bah, tout va bien. J'étais plutôt en forme. C'était vraiment une journée, je ne me suis pas du tout dit que ça allait venir.
Hein. Bon, et vous avez quand même eu des petits vertiges?
Alors, c'était un petit peu quelques jours avant, mais j'avais été voir ma sage-femme pour faire un contrôle. On avait fait une écoute du cœur du bébé, tout allait bien. Elle m'a dit non, il n'y a pas de souci. J'ai mis ça un peu sur le dos de la fatigue. Forcément, c'est la fin de la grossesse. Donc,
Oui. Bon, donc vous avez continué jusqu'à ce 7 avril, où là, vous rentrez, donc après votre gros caddie et tout, il y a une sensation bizarre.
J'étais sur le canapé, c'était le soir, on regardait la télé et j'ai ressenti comme un petit bouchon, comme si c'était un bouchon de champagne. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, après, c'est pareil, tout le monde se dit, ah, yeah, c'est le moment. Enfin, il y a toujours un signe où on se dit, ah, yeah, ça va arriver. Alors, je me suis dit, non, j'ai encore dû rêver. Bon, bah, c'est tout. Et pas très longtemps après, je me suis dit, j'étais plutôt inconfortable. Je me suis dit, je pense que j'ai envie d'aller à la selle, un peu pas comme un début de diarrhée, mais on sent que ça travaille, quoi. Et mon conjoint, bon, bah, moi, je vais me coucher. Bon, je pense pas que de toute façon, ce sera pour maintenant. Hein. Toujours un petit peu à me poser des questions. Je vais aux toilettes, j'arrive à y aller. Donc, je me dis, bon, bah, c'est que c'était bien ça. Je retourne à ma place. Et j'avais déjà eu ces mêmes sensations une semaine auparavant. Donc, en plus, ça m'a pas... Je me suis dit, c'est encore la même chose. Et... au final, je commence à être inconfortable sur mon canapé. J'ai mis ça me fait des espèces de coups de jus en bas du dos. Je dis qu'est-ce que c'est? Puis en plus c'est régulier. Je regarde l'horloge, mais c'est assez. Je me suis souvenu que ma maman, elle me disait, mais si toutes les 5 minutes tu ressens des douleurs pendant 1 heure, là tu peux te dire que tu vas à la maternité. Je regarde l'heure pendant 1 heure, je regarde, c'est toutes les 4 minutes, pas toutes les 5, donc du coup je fais quoi? Et là j'ai une petite bouffée d'angoisse en me disant, bon, j'ai pas préparé ma valise par superstition, en me disant que si je la préparais trop tôt, J'avais peur que ça enclenche, entre guillemets, l'accouchement. Et là, je me suis dit, voilà, quand même, il faut peut-être la préparer. Alors, tout en ayant mes petites douleurs, je suis montée à l'étage chercher les affaires de ma fille. Je suis redescendue, j'ai à peine eu le temps de les poser sur la table que, paf, la perte des os. Et là, je me suis dit...
Vous avez tout de suite compris que c'était perte des os, parce que c'est impressionnant quand même. Hein.
Ah ben, on m'avait quand même expliqué que c'était un peu comme se faire pipi dessus, mais là, c'était en plus violent, hein, parce que c'était vraiment d'un coup,
j'étais trompée. Frédéric dormait pendant ce temps-là. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous perdez les os, il dort?
Ah bah,
j'ai... Vous êtes allé le secouer quand même.
Parce que moi, à la base, j'étais dans l'idée de me dire, bon, si j'accouche, de toute façon, ça mettra 24 heures de contraction, je peux le laisser dormir jusqu'à au moins 6 heures. Il était, je ne sais plus quelle heure. Mais quand j'ai perdu les os, j'ai perdu tous mes moyens. J'ai crié « Fred !» Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, mais je l'ai appelé à l'ordre. Et lui, un petit peu, bah forcément, ça faisait peut-être 2 heures qu'il s'était endormi. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Là, vous avez très mal.
Je dirais pas que j'avais déjà très mal, mais j'étais déjà à me dire « il faut tout de suite que j'aille aux toilettes ». Voilà. J'avais déjà comme vraiment cette sensation de nouveau beaucoup plus forte d'aller à la selle. Et puis comme j'étais trempée, mon réflexe a été d'enlever le pantalon, d'aller aux toilettes. Et puis bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Appelle la maternité. Je pense que j'ai dit que j'ai perdu les os. Qu'est-ce qu'on fait? Alors du coup, ni une ni deux, il a pris le téléphone, il a appelé la maternité, il explique. « Oh, bah, vous avez le temps, si vous voulez, votre femme, elle peut aller prendre un bain pour se détendre, se relaxer pour la douleur et tout ça. » Oui, oui. Alors du coup, j'ai essayé d'atteindre la salle de bain. J'ai voulu ouvrir l'eau et là, j'ai compris que ça ne se passerait pas du tout comme ça.
Vous ne pourrez même pas vous asseoir pour aller à la maternité dans la voiture, quoi.
Ah non, non, ce n'était pas envisageable.
C'était impossible. Donc là, à quel moment vous vous dites « bon, bah, je vais accoucher à la maison, quoi. Qu'est-ce qui se passe ?»
Je ne réalisais pas vraiment encore. Je savais juste qu'il fallait... Moi, en fait, j'avais qu'un objectif, c'était qu'il fallait que je reste au-dessus des toilettes parce que la position, j'avais qu'une envie, c'était de rester dans cette position. Et puis, par rapport à la douleur et cette sensation de vouloir aller à la salle, je me voyais pas ailleurs qu'aux toilettes.
Bien sûr, parce que vous n'aviez pas encore compris que c'était le bébé qui appuyait. Évidemment, ça fait la même sensation que quand on veut aller à la salle. Donc forcément, réflexe, toilette. Là, vous hurlez, vous dites « je ne vais pas pouvoir accoucher à la maternité !» C'est bien ça.
Oui, c'est ça.
Et alors, qu'est-ce qui se passe là? À ce moment-là, il faut appeler les secours.
Oui, alors sur l'instant, mon conjoint, non, tu vas monter dans la voiture comme tout le monde, tout va bien se passer, mais c'est normal. Mais par contre, si tu as des douleurs comme ça dès le début, je ne sais pas comment ça va se finir à la fin de l'accouchement.
Ils sont bien les mecs hein, pour ça.
Ah oui, non, mais là, ils remettaient complètement en question la douleur que j'avais sur le moment. Et là, je me suis dit, mais comment je vais lui faire comprendre qu'il y a une situation d'urgence et que ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas ce qu'on avait imaginé. J'étais les deux mains, chacune de leur côté sur les murs. J'ai pris une grande inspiration entre deux contractions. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, là, il faut vraiment que tu m'écoutes. Appelle le SAMU. Ça ne va pas être possible. On ne peut pas aller dans la voiture. Et du coup, il y a eu un moment comme ça où il m'a regardé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Mais fais quelque chose. Et là, il a pris son portable. Il s'est dit, je vais peut-être quand même appeler le SAMU. La personne du SAMU lui dit, mais elle en est où, votre femme? Bah, j'en sais rien, c'est notre premier bébé. Si vous voulez, je vous fais écouter ses cris. Comme ça, vous verrez où elle en est dans son travail. Et à ce moment-là, il aurait dit à mon conjoint que, effectivement, vu la fréquence de mes cris, je pouvais accoucher à tout moment et qu'il avait du coup fait appel aux pompiers.
Alors, à un moment, il comprend qu'il va devoir faire la sage-femme, quoi.
Sur le moment, pas tout de suite. Le SAMU, ils se disaient que pour un premier accouchement, bon voilà, il a dit installez quand même votre femme par terre. Enfin, installez votre femme allongée, pardon. Et du coup, mon conjoint, il voulait me mettre sur le canapé. Moi, j'ai dit non, mais je veux qu'une chose, c'est la fraîcheur du carrelage. Et puis, il fallait vraiment que je sois installée, entre guillemets, confortablement. Et mon conjoint, il a mis des serviettes. Je me suis allongée. J'y regarde quand même parce que... Et là, il regarde, il dit je vois des cheveux.
Oh là là.
Et sachant que la personne du SAMU lui avait dit s'il y a le moindre changement, vous m'appelez. Ah bah, il a vu ça, j'ai même pas eu le temps de réaliser ce qu'il venait de me dire, qu'il rappelait déjà le SAMU. Il dit bon, bah, il y a déjà un changement, je vois les cheveux. Et il était encore en mode voilà. Et la personne lui a dit bon, bah, il va falloir accoucher votre femme. Ah, mais non, moi, j'ai pas regardé de tuto, je sais pas comment on fait. Du coup, c'était un petit peu la panique. Il a dit ah, mais là, il va pas y avoir le choix. Mais il a dit mais les pompiers sont pas encore arrivés. Hein. Ah, mais ils arriveront pas à temps. Et là, le visage de mon conjoint s'est totalement changé. Et je pense qu'il a réalisé vraiment qu'il n'y avait plus le choix. Et on aurait cru qu'il s'était tout de suite mis dans le rôle de la sage-femme. Il avait fait ça toute sa vie. C'est une transformation incroyable. Je l'ai laissé, du coup, j'avais toute ma confiance envers lui et moi, j'étais juste concentrée à faire mes poussées.
Et donc, il a attrapé le bébé. Comment ça s'est passé, l'accouchement ?
Alors déjà, j'ai eu une première grosse poussée où j'ai poussé et j'ai senti d'un coup comme si elle était re-rentrée à l'intérieur de moi. Ma moment de panique, je dis, mais elle est re-rentrée, là. Et là, mon conjoint, il dit, ah oui, je vois plus rien. Et j'entends, puis comme on était en haut-parleur avec la personne du SAMU, ah mais il ne faut pas qu'elle re-rentre, hein, il ne faut pas qu'elle reste coincée. Il faut dire à votre femme qu'il faudra vraiment qu'elle pousse la prochaine fois. Deuxième poussée, j'ai vraiment tout donné et j'ai réussi à expulser la tête. Et donc là, mon conjoint, il me prévient et la personne, elle dit, c'est bien, recontinuez la prochaine fois. Et troisième contraction, alors là, c'est un peu comme dans les reportages animaliers où vous voyez que ça galère un petit peu au début, puis que d'un coup, c'est plaf, hein, ça vient comme un boulet de canon. Mon conjoint, il m'a raconté qu'il a à peine eu le temps, enfin, on lui avait dit de mettre ses mains un peu comme ça, de se positionner. Elle lui a ratterri, ça glisse, comment je vais faire, un petit peu inquiet, mais il a vraiment bien géré la situation.
Et là, il était tout ému, j'imagine, ça a dû être un moment extraordinaire.
Sur l'instant, je ne pense pas qu'il ait vraiment réalisé. Il était surtout à se demander qu'est-ce que je fais maintenant avec le bébé, avec le cordon qui me gêne. Mmh. La personne lui a dit, il faut vous reposer le bébé sur la maman. Donc, il a dû trouver une astuce pour pouvoir me la poser dessus. Et après, quand vraiment, il a mis le bonnet sur la petite, il nous a recouvertes de couverture. Moi, moi qui avais très chaud, du coup, j'étais glacée. Et là, il me dit, mais... J'ai besoin de souffler, je reviens, je vais dans la cuisine. Et au loin, je l'entendais pleurer, alors que sur toute la vie qu'on a eue ensemble, je ne l'ai jamais vu pleurer. Alors ça...
Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes sage-femme à la maternité de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et évidemment, on a besoin de conseils pour gérer au mieux... ce risque minime, enfin ça peut arriver.
Un accouchement sur deux, quand même. Hein. Un accouchement sur deux à la maison.
Arrête, parce qu'après.
J'ai peur.
Il n'a pas entendu, on n'a pas entendu les rires et tout. Donc on l'a bien vu hein, dans l'histoire de Camille, le rôle du père, ça peut être fondamental. Alors, quels sont les bons réflexes pour les coparents quand on a un accouchement à la maison ?
Alors déjà, ça va être d'essayer de se dire, c'est pas facile parce que c'est des situations très stressantes, hein, mais c'est de se rappeler qu'un accouchement, ça reste quelque chose de naturel.
C'est ça. Déjà. Les bébés sont programmés pour sortir
voilà.
Et pour survivre.
Et les femmes pour accoucher, donc normalement, tout va bien se passer. Et quand l'accouchement se passe très vite, trop vite pour qu'on ait le temps d'aller à la maternité, le plus souvent, c'est vraiment les accouchements qui se passent bien. Nous, c'est ce qu'on dit quand on a le SAMU qui nous appelle. On sait que quand ça va trop vite, c'est que ça se passe bien.
Bon, bah, c'est vachement bien ça.
Alors, on l'a vu dans le témoignage de Camille, elle a eu du mal à reconnaître ses contractions. Ça peut, du coup, en angoisser certaines qui sont enceintes aujourd'hui. Comment faire pour savoir quand le travail démarre ?
Alors, Camille, son histoire, c'est quand même assez exceptionnel, hein, que tout le monde se rassure. ça va rarement aussi vite que ça. On a quand même, normalement, ces contractions qui sont un petit peu douloureuses. Et après, on reconnaît les contractions qui commencent à être très douloureuses. Et dans la plupart des cas, il y a quand même toute cette période de contractions très douloureuses, toutes les 5 minutes, pendant 2 heures, qui signe le début du travail, qui ne signe pas l'accouchement.
Mais la douleur, c'est subjectif. Est-ce qu'il y a un timing éventuellement ?
Alors, est-ce qu'elle est vraiment subjective, la douleur de la contraction d'accouchement ? Je pense qu'elle est... Je sais pas, elle met tout le monde d'accord, non ?
Sauf Camille. Quand on l'écoute. Camille mais ça douloureux. Reste des exceptions, en fait. Quand même, parce que vraiment, la douleur des contractions, la douleur du début du travail, ce qu'on dit à nos patientes, c'est qu'elles vont reconnaître la douleur. Elle expliquait, Camille, qu'elle avait peur d'aller à la maternité trop tôt, machin, tout ça. Et en fait, nos patientes, effectivement, quand elles arrivent trop tôt, on leur dit, vous inquiétez pas, là, vous avez mal un petit peu. Et vous allez reconnaître les douleurs du vrai travail, ça ne sera plus les mêmes. Et quand elles arrivent quelques heures plus tard, elles disent, ouais, ça y est, je vois de quoi vous parlez.
J'ai compris. On a reçu une question en vidéo pour vous de Marion.
Bonjour, la Maison des Maternelles. En cas d'accouchement inopiné, que faut-il faire avec le cordon ombilical en attendant l'arrivée des secours ? Merci.
Très, très important, cette histoire de cordon.
On n'y touche pas.
On n'y touche pas.
On n'y touche surtout pas. Non, parce que si on coupe, ça peut faire une hémorragie d'un côté ou de l'autre. Donc vraiment, on n'y touche pas. Et il n'y a aucune urgence à couper le cordon. Dans les maternités, maintenant, pour les accouchements, on attend souvent que le cordon ait fini de battre pour le couper. Enfin, il n'y a vraiment aucune urgence à couper le cordon.
Johan nous dit « Je suis un futur jeune papa et l'idée d'un accouchement inopiné m'angoisse terriblement. Que dois-je faire si ça arrive, notamment lorsque la tête du bébé sort ?»
Détendez-vous.
Ouais, c'est ça,
un qui a
accouché
trois fois sa femme.
La
tête. La tête. Eh bien, on ne fait pas grand-chose, en fait. Hein. Y a vraiment, encore une fois, quand ça va vite, c'est que ça se passe bien. Donc, il ne faut vraiment pas y toucher. Faut guider la maman. Ça va être surtout coacher la maman et laisser faire les choses.
Mais par exemple, concrètement, est-ce qu'on tire un petit peu sur les épaules
pas. En fait, non, on n'y touche pas. Il faut faire confiance au corps aussi. Les femmes, normalement, elles savent. Il y a une contraction, elles ont envie de pousser quand il y a une contraction.
Et il sort tout seul.
Donc, et il sort tout seul.
Et après, il faut le réchauffer, non, j'imagine ?
Ça, c'est le plus important. À la naissance, c'est de le réchauffer. Donc, ça va être de le poser directement en peau à peau contre la maman. Donc, la maman sans vêtements et le bébé sans vêtements, innocent. Donc, c'est très bien. Et en lui mettant un bonnet, parce que c'est par la tête qu'il se refroidit le plus.
Oui, il arrive d'un environnement à 37 degrés. Donc, il faut imaginer que déjà, il se dit, qu'est-ce que c'est que cette salle de bain, là ? Où je suis ? Qui sont ces gens ? Déjà, quelles sont ces figures humaines, quoi ? Donc, si en plus, il a froid, le pauvre petit.
Donc, peau à peau, couverture, bonnet. Voilà. Et on attend les secours.
Ouais. Et alors, et ça, je crois qu'on ne l'a pas dit au début, mais la première chose à faire, c'est quand même d'appeler le SAMU.
Oui.
On ne reste pas tout seul.
C'est la première chose à faire. Et là, c'est le rôle du coparent. Lucille vous demande, en cas d'accouchement inopiné, comment savoir si le bébé est en bonne santé si on accouche avant l'arrivée des secours ?
Bah déjà, on va le regarder. S'il est rose, c'est qu'il va bien, il est en bonne santé. Il faut qu'il crie. Alors après, ils ne sont pas obligés de crier immédiatement. Ils ont quelques secondes, une minute même pour atterrir, en fait.
Ça peut paraître long.
Ça peut paraître très, très long.
Oui, voilà. À mon avis, c'est les plus longues minutes de
un bon cri, un bébé rose, c'est un bébé qui va bien.
OK. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour vous poser une première question sur la situation de la grève des sages-femmes qu'on a beaucoup suivie, la mobilisation des sages-femmes ? On en parle moins en ce moment. Est-ce que ça veut dire que tout est réglé ?
Bien sûr.
La question dont tu connais la réponse.
Bien sûr que non.
Vous restez mobilisés ?
On reste mobilisés difficilement. Hein. C'est une profession où c'est très difficile d'être mobilisé. C'est très difficile en fait de faire grève. C'est-à-dire qu'on essaye de faire grève, mais parfois, les accouchements continuent.
Il y a écrit en grève, mais vous bossez.
En grève, mais on bosse, mais du coup, on n'a pas beaucoup de poids. Donc, merci beaucoup de parler de notre mouvement. Il continue. On est toujours en grève. On n'a pas obtenu grand-chose.
Et le Grenelle de la santé, tout ça, non ?
Alors, les... Non, merci Karim.
Non, merci Karim, vous êtes toujours d'espoir, mais non.
On y va ? Parce qu'on a reçu plein de questions sur les accouchements à domicile, qui est quand même le thème du jour. Coralie, par exemple, qui dit « Si les secours se font attendre lors d'un accouchement à la maison, cela rend-il le moment de la délivrance dangereux ?»
Alors, en fait, le moment de la délivrance, c'est le moment délicat, parce qu'on a beaucoup parlé de l'accouchement, mais l'accouchement en lui-même, c'est ce qui fait peur, mais c'est ce qui va être le plus simple. Et effectivement, la délivrance, c'est le moment le plus délicat.
Vous pouvez rappeler ce que c'est la délivrance ?
Oui, la délivrance, c'est l'expulsion du placenta.
Qui intervient en théorie, quoi, une demi-heure après ?
Une demi-heure après la naissance. Donc, en général, quand même, en France, les secours, ils arrivent en une demi-heure. Et après, même, on préfère que la délivrance se fasse en milieu hospitalier. Donc, il y a vraiment... C'est un peu comme le cordon, on n'y touche pas, quoi. On ne touche pas au placenta.
Et alors, pourquoi c'est dangereux, potentiellement ?
Parce qu'au moment de la délivrance, c'est le moment où il peut y avoir une hémorragie, un saignement important. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux être dans une structure hospitalière.
Cela dit, on dit qu'en France, une demi-heure, c'est vrai qu'un peu partout où on habite en France métropolitaine, il n'y a pas de risque. Mais c'est vrai que, par exemple, à Tahiti, où il y a des petites îles qui sont très éloignées, comment ça se passe là, concrètement dans... C'est pour ça qu'on insiste.
Je ne suis jamais allée travailler à Tahiti.
Ah, c'est dommage.
Oui, vous devez aujourd'hui.
C'est une organisation très particulière. En fait, les femmes sont rapatriées en général quelques semaines avant le terme.
Dans des hôtels,
c'est vraiment une autre organisation.
Ouais. Ça vaudrait le coup peut-être d'aller faire un petit reportage.
Parce que ça
peut
être très, très intéressant.
Je suis Gaza. Je crois que c'est vous qui allez aller faire.
Jérôme, je suis d'accord, moi.
Mais moi aussi, puis alors il faut absolument que je sois là.
Bien sûr.
Pour vérifier que tout va bien.
Mais moi, je voudrais m'intéresser aux ados de.
C'est bizarre, il répond pas.
Et Karim doit la refaire faire du sport parce que ça fait un moment que les capatelles, ça descend.
Alors Lola vous dit, en cas d'accouchement à la maison, où faut-il s'installer ? Quelles sont les précautions et les dispositions à prendre ?
Alors, il faut s'installer sur un endroit où on ne va pas tout salir, par exemple, pas sur son canapé neuf qu'on vient d'acheter. Et encore une fois, je disais tout à l'heure, il faut aussi faire confiance à son corps, il faut s'écouter. Chaque femme est différente, chaque accouchement est différent, et chaque femme accouche pas, tout le monde n'accouche pas dans la même position. Donc, il faut écouter son corps et se mettre dans la position dans laquelle on a envie de se mettre. Après, voilà, il faut protéger son canapé. Donc, tout à l'heure, Camille, elle était sur son carrelage, c'était bien. Et elle, elle avait envie de se mettre sur le carrelage.
Elle avait chaud
et elle avait envie d'être sur son carrelage qui était frais. Mm-hmm. Voilà, donc ça, c'était vrai pour Camille. Ça ne sera peut-être pas vrai pour quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Donc, il faut s'écouter.
On prépare des serviettes, des couvertures
Surtout pour réchauffer le bébé à la naissance.
Quand il sort, on le met dans une couverture ?
On le met sur sa mère directement, en peau à peau, une couverture par-dessus et un bonnet sur sa tête.
Alors, on vient de recevoir cette question de Nadège qui dit « Bonjour, j'attends des jumeaux, ma grande peur est un accouchement inopiné. Y a-t-il des risques accrus pour le deuxième bébé ?» Merci pour votre réponse.
Pour la naissance du deuxième bébé, en cas de naissance gémellaire, alors normalement, elle n'accouchera pas à domicile de ses jumeaux. On aura tout organisé pour qu'elle accouche à la maternité.
Donc,
effectivement, sinon, sur un accouchement de grossesse gémellaire, le deuxième jumeau, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas que ça se passe à domicile.
Là, il y a besoin de beaucoup de monde. Il se passe combien de temps, généralement, entre la sortie du premier et du deuxième
bébé ? Il y a une dizaine de minutes entre les deux bébés. Mais il peut y avoir besoin de faire des manœuvres particulières pour remettre le deuxième bébé dans le bon sens et tout ça. Donc, les jumeaux, c'est à l'hôpital.
C'est rarement dans la salle de bain.
C'est à l'hôpital. Et d'ailleurs, on déclenche les accouchements de grossesse.
Pour éviter ce genre de choses, c'est pour ça qu'on déclenche ?
Non, c'est pas pour ça. C'est parce que les grossesses sont plus compliquées, les grossesses gémellaires. Donc, on fait naître les bébés plus tôt.
Pour éviter que la maman explose.
Donc, on peut rassurer, Nadège, ça n'arrivera pas.
Ça n'arrivera pas.
Suzanne vous dit « Je suis enceinte de 3 mois et je voulais savoir ce que l'on peut conseiller au papa pour être prêt le jour J, surtout si l'accouchement ne se fait pas à la maternité. »
Je ne sais pas si les papas sont prêts le jour J, ni les mamans d'ailleurs.
Ni les sages-femmes d'ailleurs.
Ni les sages-femmes, on n'est pas prêtes non plus. Non, ça va être de se préparer le plus possible, c'est-à-dire d'assister aux cours de préparation, pas trop de chercher sur Internet, c'est pas une très très bonne idée, de regarder la maison des maternelles, ça peut être bien.
C'est bien, ça c'est une bonne idée.
Voilà. On est bien voilà.
Et les cours de préparation.
Les cours de préparation, ouais, sont très très importants, puis en plus c'est un endroit où la parole est libre, donc c'est facile de poser ses questions, de faire partager ses angoisses et d'avoir des réponses bien adaptées.
Du coup, Romane vous demande pour un premier accouchement, quand faut-il partir à la maternité ?
Au bout de 2 heures de contraction très douloureuse toutes les 5 minutes.
Okay.
Pour un premier bébé, ou la perte de liquide. Voilà, en gros, c'est ça, pour l'accouchement. Mmh.
Sophia vous dit, ma plus grande peur est d'accoucher sur l'autoroute, sur le chemin de la maternité. Parce qu'il y a ça, il y a la distance aussi. Hein. Que faire si j'accouche dans la voiture, sur le bord de la route ?
Alors, on va essayer de ne pas se retrouver dans cette situation. Par exemple, Camille, tout à l'heure, elle a dit à un moment, son mari voulait la mettre dans la voiture, elle a dit, c'est hors de question. Encore une fois, elle a su, en fait, qu'il ne fallait pas aller dans la voiture parce que c'était trop tard. Après, si jamais ça arrive, parce qu'on entend toujours, il y a toujours des enfants qui naissent sur le bord des routes, c'est de se mettre en sécurité le plus possible et d'appeler le SAMU.
On en parle ici, mais c'est très rare.
Oui,
c'est
très rare.
Et encore, même quand cet accouchement arrive, en général, il se passe
très bien.
Voilà.
Okay. C'est exactement ça.
Constance vous demande, est-ce que la perte du bouchon muqueux veut dire que l'on va accoucher dans peu de temps ?
Non, pas du tout. La perte du bouchon muqueux, ça peut intervenir plusieurs semaines avant la naissance.
J'ai très peur, Laura vous dit, j'ai très peur d'accoucher seule et de ne pas avoir le temps d'arriver à la maternité. Ça, c'est vraiment une question qui revient. Que conseillez-vous si ça arrive ?
Si ça arrive, encore une fois, on appelle le SAMU. Et si on est toute seule, ça peut arriver.
C'est ça, c'est d'être
ça peut
seule.
Arriver d'être seule. Ça va être juste de crier. En fait, on est rarement tout seul en pleine pampa.
Ouais.
Il y a parfois du monde autour de soi, des voisins. On crie. Pour ça alerter.
Doit être compliqué de gérer tout seul. Quoi.
C'est mais, de toute façon, les contractions, ça fait mal.
Ouais.
Donc, on crie.
Oui.
Et donc, les gens entendent. En fait.
Et puis, si on a un téléphone quand même et qu'on peut le déplacer...
Avec le téléphone, maintenant, on a tous un smartphone dans notre poche. Donc, on appelle les secours.
Au pire, on met une story sur Insta.
Et voilà, et après, les...
Au pire, on est dévoré par ces chats.
N'importe quoi.
Mais c'est fantastique.
Au pire, personne n'a entendu ces cris et on est dévoré par nos chats. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
En fait, ça signifie que les derniers jours, quand on pense qu'on est en fin de grossesse, on essaye d'être le plus entouré possible.
Faut que le coparent soit joignable quoi, en permanence.
Ouais, c'est clair.
Et en fait, c'est beaucoup plus fréquent l'inverse, c'est-à-dire besoin de faire des déclenchements, des bébés qui sortent pas, plutôt que des bébés qui sortent. Hein.
On parle beaucoup moins quand même des accouchements qui mettent 20 heures à se réaliser. Oui, ce qui est plutôt la norme, en fait. Hein. Une bonne dizaine d'heures, quinzaine d'heures.
Ah bah alors, justement, on peut faire un point sur la norme. Parce que justement, venant à la Pitié-Salpêtrière, il y avait une maman, ça faisait 48 heures qu'elle était là.
Quoi ?
Elle n'en pouvait plus. Non, enfin, qu'elle était arrivée à la maternité. Bon, il fallait attendre un peu, etc. Le travail a commencé depuis une vingtaine d'heures. Bon, elle était au bout de sa vie, quand même.
Ben, je veux bien le croire. Hein.
Et c'est fréquent.
Non, c'est pas fréquent.
Ça arrive
fréquent.
De temps en temps.
Ça arrive de temps en temps. Mais en fait, l'obstétrique, tout peut se voir. Tout, et tous les extrêmes. Donc, des accouchements en 10 minutes et des accouchements en une vingtaine d'heures. Mmh. Et c'est très difficile de dire, au départ, combien de temps ça va prendre.
Mais la péridurale, on la pose quand ça dure 20 heures
Bah, quand la femme le demande.
OK. Donc, on peut être pendant 20 heures sous péridurale.
Ah oui. On peut être pendant 3 jours sous péridurale. Si ça dure très longtemps, on peut avoir la péridurale jusqu'au bout.
Mandy vous demande s'il existe une catégorie de femmes qui accouchent plus rapidement que d'autres.
Eh bien, la femme qui aura accouché rapidement une première fois, on sait qu'elle a un grand risque d'accoucher plus rapidement une deuxième fois. Mais il faut déjà avoir accouché une première fois pour le savoir. Oui. Donc, dans ces cas-là, on peut, par exemple, proposer un déclenchement pour la deuxième naissance, histoire de ne pas se retrouver dans une situation quand même qui peut être compliquée. On a dit, quand ça va vite, c'est que ça se passe bien. Mais j'avais dit tout à l'heure aussi, la délivrance, l'expulsion du placenta, c'est la période un petit peu compliquée. Mm-hmm. Donc là, c'est mieux que ça soit à domicile. Donc pour éviter de se retrouver dans une situation compliquée, déclencher l'accouchement.
Pour le deuxième. Pour le premier,
on ne sait pas trop. Parce que même quand il y a une menace d'accouchement prématuré, parfois, on se retrouve à devoir déclencher la naissance d'un bébé qui, à un moment, a menacé de naître en avance et on se retrouve en fin de grossesse. Et bien, en fait, il n'est toujours pas né. Donc il faut déclencher l'accouchement.
Bon, on a plein de questions sur les positions. Morgane, je risque d'accoucher prématurément, dit-elle. Avez-vous des conseils concernant les positions à adopter et celles à éviter ?
Pour l'accouchement ?
Oui.
Pour l'accouchement prématuré ?
Si c'est à la maison.
Ah, j'ai pas compris la question.
Prématuré, inopiné.
Prématuré ou inopiné ?
Non, pardon. Non, j'imagine que c'est... Est-ce que c'est sur le dos ?
La position, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est la position que son corps va lui donner, en fait. Il faut qu'elle s'écoute, parce que c'est la position... Il y a des femmes qui seront mieux allongées, il y en a qui seront mieux à quatre pattes, il y en a qui seront mieux accroupies.
L'embêtant, c'est Camille qui était mieux sur les toilettes.
Oui, c'était
ça, c'est pas très pratique, effectivement, pour la drapeuse.
L'arrivée au monde de l'enfant est quand même particulière. Premier contact avec le monde. Bon, il est un contact, cela dit, qu'il retrouvera souvent, hein, mais bon. Ah, voilà.
Roxane vous dit, faut-il préparer sa valise de maternité en avance et que faut-il mettre dedans ? Alors Roxane, je pense qu'il y a plusieurs tutos de Marie Perarnoux sur la valise de la maternité et tout ce qu'on met dedans, mais vous avez peut-être un élément de réponse.
Bah, en avance, oui. Hein, ça c'est certain. Encore une fois, on a Camille tout à l'heure qui nous a expliqué que c'était un peu la panique parce qu'elle n'avait pas voulu le faire en avance. Donc en avance. Et surtout, de mon expérience, on lave les vêtements du bébé avant de les mettre dans la valise. Oui. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc en gros, il faut un petit sac juste pour la salle de naissance, pour le premier vêtement du bébé. Il a besoin d'un body à manches longues, d'un pyjama, d'un bonnet, d'une turbulette, enfin une turbulette gigoteuse, ça dépend du vocabulaire de chacun, et d'un pull. Ça, c'est la base. Quelle que soit la saison. Donc, on peut la faire très en avance parce que c'est la même que ce soit au mois de juillet ou au mois de décembre. Donc, c'est la même chose. Et après, pour la maman, il n'y a pas besoin de grand-chose vraiment pour la salle de naissance, pour l'accouchement. Ça peut être quand même le coussin d'allaitement parce que ça peut permettre de se positionner pendant le travail. Mm-hmm. Un grand t-shirt confortable. Et puis, c'est à peu près tout.
Merci beaucoup à Mathilde Gillet d'être venue nous voir et merci à Camille pour son témoignage. Des gros bisous à Ava de la part de toute l'équipe. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h28 sur France 2, puis quand vous voulez, en podcast. Ciao tout le monde.